My dear brothers and sisters, dear friends,
mes chers frères et sœurs, mes chers amis, notre prophète bien-aimé, le président Monson, vous envoie ses salutations. Il est reconnaissant pour vos prières et votre amour à cette période de Noël, comme toujours. J'ai toujours aimé cette période de l'année. La veillée de Noël de la première présidence est devenue une tradition que nombreuses personnes aiment, notamment les membres de ma propre famille. Nous attendons avec impatience de débuter la saison des fêtes avec la sublime musique de l'orchestra à Temple Square et, bien sûr, du Mormon Tabernacle Choir. Les messages et la musique donnent le tour de la période de Noël et nous rappellent la saison, la raison et la signification profonde de ce que nous célébrons. Et bien sûr, tout cela est vrai aujourd'hui avec ce que nous avons déjà entendu jusqu'ici. Dans ma plus tendre enfance, je voulais qu'à Noël, il y ait un temps hivernal parfait. Et je sais que je ne suis pas le seul. Pour moi, ça voulait dire donc un petit vent glacial, un ciel bien bleu et une épaisse couche de neige fraîchement tombée. Mais le temps ne correspondait presque jamais à mes rêves de paysage de carte postale. Il y avait plutôt un ciel gris brumeux d'où tombait de la neige fondue ou même de la pluie. Cependant, le soir du réveillon de Noël, ma mère nous emmitouflait dans des habits bien chauds et notre père nous emmenait nous promener dans les rues de notre ville. Nous, les enfants, connaissions la véritable raison de cette promenade annuelle. Notre mère avait besoin de temps pour décorer l'arbre de Noël, mettre les cadeaux au pied du sapin et préparer notre salon pour la Sainte Nuit. Nous tentions tous les subterfuges pour rendre cette promenade aussi courte que possible. Mais notre père faisait preuve d'une grande créativité pour allonger le parcours afin de donner à notre mère donc le temps dont elle avait besoin. À cette époque, les rues de Zwicka étaient plutôt sombres le soir. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale et les rues étaient mal éclairées. Seuls quelques magasins étaient ouverts et certains se trouveraient près de maisons bombardées qui avaient toujours l'odeur étrange de la guerre. La partie que nous préférions dans la promenade était notre passage dans la cathédrale où nous écoutions de magnifiques chants de Noël et l'orgue majestueux qui jouait toujours la veille de Noël. Cette musique semblait rendre les humbles lumières de notre ville plus étincelantes, presque comme des étoiles scintillantes, et remplissait notre cœur d'enfant d'un merveilleux esprit de joie impatiente. Au moment où nous rentrions, notre mère avait fini les préparatifs et nous défilions dans le salon un à un pour admirer le magnifique Tannenbaum ou sapin qui venait d'être décoré. Ce n'était pas facile de trouver des arbres à cette époque et nous prenions ce qu'il y avait. Nous devions parfois ajouter quelques branches pour qu'ils soient un peu plus fournis pour l'occasion. Mais à mes yeux d'enfant, l'arbre de Noël était toujours parfaitement glorieux. La lumière scintillante des bougies remplissait la pièce d'une lueur mystérieuse, presque féerique. Et nous regardions avec excitation les présents sous l'arbre et espérions que nos désirs secrets seraient réalisés. L'excitation de recevoir des présents était presque égalée par l'enthousiasme d'en donner. Ces cadeaux étaient souvent faits maison. Et une année, alors que j'étais très jeune, j'avais offert à mon frère son portrait que j'avais dessiné. J'étais très fier de mon chef-d'œuvre. Il m'a remercié et félicité avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Je chérirai toujours ces souvenirs agréables de mon enfance en Allemagne de l'Est. Les traditions de Noël se célèbrent dans les cultures et les nations de ce monde de manière extraordinaire et unique. Elles sont toutes magnifiques, remarquables et pourtant très différentes. Mais elles ont toutes en commun les sentiments et l'esprit qui semblent être présents lorsque nous célébrons la naissance du Christ, notre roi, notre consolateur, notre confident, la consolation d'Israël. On peut exprimer ces sentiments de multiples façons, comme la gaieté, l'espérance, l'attente joyeuse, la bonne humeur. Tout cela fait partie de ce que l'on appelle l'esprit de Noël. Mais pour moi, il y a un mot qui décrit mieux les sentiments que nous éprouvons à Noël. Ce mot, c'est l'amour. Après tout, le don que nous célébrons à Noël est un don d'amour, le don que Dieu a fait de son Fils. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est cela, l'amour. Pendant cette période, les cœurs touchés par l'amour s'adoucissent. Nous ressentons de la tendresse qui nous pousse à tendre la main aux autres avec gentillesse et compassion. Noël nous inspire à mieux aimer. En disant cela, je reconnais que le mot « amour » est insuffisant. En anglais, comme dans beaucoup d'autres langues, « aimer » peut signifier bien d'autres choses. Par exemple, je pourrais dire que j'aime la pluie, ou que j'aime votre nouvelle tenue, ou que j'aime l'odeur d'une boîte de balles de tennis que l'on vient d'ouvrir. Mais l'amour dont j'en parle est beaucoup plus profond. Notre conception limitée de l'amour est comme un grain de sable sur une immense plage comparé à l'amour que Dieu a pour nous. Son amour est infini et d'une compassion sans limite. L'amour divin remplit l'éternité. Il déborde de grâce éternelle. Il se met à notre portée et nous élève. Il pardonne, il bénit, il rachète. L'amour divin transcende les différences de personnalité, de culture ou de croyance. Il refuse de laisser les partis pris et les préjugés empêcher d'apporter du réconfort ou de la compassion et de la compréhension. Il est complètement dépourvu de brutalité, de discrimination ou d'arrogance. L'amour divin nous inspire à faire ce que le Sauveur aurait fait, aller au secours des faibles, fortifier les mains languissantes et affermir les genoux qui chancellent. C'est le genre d'amour que nous nous efforçons d'acquérir. Ça devrait être notre attribut fondamental en tant que personne et peuple. Nous ne parviendrons peut-être pas à développer la plénitude de l'amour divin dans cette vie, mais nous ne devrions jamais nous arrêter d'essayer. Si il y a une période de l'année où nous nous en rapprochons un peu plus, c'est la période de Noël, lorsque notre cœur et nos pensées se tournent vers la naissance de la manifestation vivante de l'amour divin, c'est-à-dire le Sauveur Jésus-Christ. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer comment nous pouvons laisser cet amour travailler dans notre vie. Il y a 85 ans, la veille de Noël, pendant la Grande Dépression, un conseiller municipal inspectait les routes de Salt Lake City après une tempête hivernale. Tandis qu'il conduisait, il remarqua un petit garçon au bord de la route, dans le froid glacial, sans manteau, ni gants, ni bottes. Le conseiller municipal se gara, invita le garçon au chaud dans sa voiture et lui demanda s'il était content que ce soit Noël. Le garçon répondit, « Nous n'allons pas avoir de Noël chez nous. Papa est mort il y a 3 mois et nous a laissés, maman, moi, mon petit frère et ma petite sœur. Le conseiller municipal monta le chauffage dans la voiture et dit « Mon garçon, donne-moi ton nom et ton adresse, quelqu'un va venir chez toi, vous ne serez pas oublié. » Le conseiller municipal était aussi le président d'un pieu du centre-ville de Salt Lake City. Il travaillait avec les membres de son pieu pour fournir de la nourriture et des cadeaux aux familles qui n'avaient pas les moyens d'en acheter. Le garçon n'était pas membre de l'Église, mais cela n'avait pas d'importance pour le conseiller municipal. Ce soir-là, avec l'un des évêques de son pieu, il s'est assuré qu'un panier de Noël bien garni soit livré à la famille du garçon. La rencontre de ce garçon toucha profondément ce président de pieu. Cela le rendit plus déterminé que jamais à rechercher les personnes qui souffrent et à les soulager. C'est même devenu l'élément central de sa vie. Le conseiller municipal s'appelait Harold Bingham Lee et 40 ans plus tard, il est devenu le 11e président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Lee a joué un rôle important dans le développement de l'immense programme de l'Église destiné à soulager la souffrance des personnes dans la détresse et à aider tous les enfants de Dieu à devenir plus autonomes. Vers la fin de sa vie, le président Lee a dit qu'il comprenait les personnes qui souffraient et qui aspiraient au soulagement parce qu'il venait lui-même d'un milieu simple et pauvre. Il ne s'agit pas de savoir combien vous avez, mais de savoir combien vous aimez. Je pense que je sais ce que le président Lee éprouvait. Ma famille a aussi parfois vécu dans des circonstances très humbles. Deux fois en 7 ans, nous avons fui notre foyer et sommes devenus des réfugiés. En Allemagne de l'Ouest, nous avons vécu dans un grenier loué dans un vieux corps de ferme. Il y avait 2 petites chambres et nous dormions tous dans l'une d'elles. Il y avait tellement peu de place que je devais marcher de côté pour me déplacer entre les lits. Ma mère avait un réchaud dont on se servait pour faire la cuisine. Lorsque nous voulions passer d'une pièce à l'autre, nous devions enjamber des outils de ferme et toutes sortes de coffres et éviter les différents morceaux de charcuterie qui pendaient du plafond. Un jour, alors que j'étais malade et devais garder le lit toute la journée, j'ai vu les souris qui partageaient notre grenier gambadé sur le sol. Il fallait monter l'eau jusqu'à nos pièces et les toilettes se trouvaient dans une remise de l'autre côté de la cour, près de la grange. Le dimanche, nous marchions 2 heures aller-retour pour nous rendre au bâtiment de notre église à Francfort. Nous avions rarement les moyens de prendre le tramway. Je ressens à la fois du chagrin et de la joie lorsque je repense à cette période. Mes parents ont fait leur possible pour subvenir à nos besoins et nous savions qu'ils nous aimaient. Oui, c'était des temps de grands besoins, mais je les considère comme des moments heureux parce que je pouvais ressentir l'amour que nous avions les uns pour les autres, pour le Seigneur et pour son Église. Il n'y a pas de honte à être pauvre. Souvenez-vous que le Sauveur du monde est né dans une étable et a été couché dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Peu de temps après, Marie, Joseph et Jésus sont devenus des réfugiés en fuyant en Égypte pour se protéger du meurtrier Hérode.
Jésus walked among the broken, the hungry.
Pendant son ministère public, Jésus a marché parmi les cœurs brisés, les affamés, les malades. Il occupait ses journées à les servir. Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. De nombreux points de vue, il était l'un d'eux, car lui non plus n'avait pas où reposer sa tête. Il a fait l'éloge d'une veuve démunie qui a pris de son nécessaire pour mettre deux petites pièces dans le tronc. Et l'un de ses derniers messages pendant sa vie sur terre était que notre salut dépend de la façon dont nous traitons les autres, particulièrement ceux qui sont méprisés, car toutes les fois que nous avons fait ces choses à l'un de ses plus petits, il a dit, c'est à lui que nous les avons faites. Un poète anglais du 19e siècle a écrit ces vers. Dans le grésil et la neige, le merle craintif arrive. Par pitié, ne le chasse pas, mais répands tes miettes. Tout le monde a quelque chose à donner. Personne n'est trop pauvre. Lorsque la misère arrive avec l'hiver, le pain n'est jamais tout à nous. Alors, répands tes miettes. Bientôt, l'hiver s'abattra sur ta vie et le jour des comptes arrivera. Contre tes péchés, par décret divin, ces miettes répandues te seront rendues en bien. Quelle que soit notre situation dans la vie, nous sommes tous un merle craintif, un mendiant devant Dieu. Nous dépendons de sa grâce divine. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur, dans le cadre du grand plan de bonheur, que nous avons l'espoir du salut et du bonheur. Ce don divin nous inspire à respecter les commandements de Dieu et à tendre la main avec compassion aux personnes qui nous entourent. Même si tout ce que nous avons n'est qu'une poignée de miettes, partageons-les joyeusement avec les personnes dans les besoins pour montrer notre reconnaissance pour le festin spirituel que Dieu a préparé pour nous. Pendant cette période de Noël que nous aimons, il convient de se réjouir des lumières, de la musique, des cadeaux et des paillettes. Cela fait partie des raisons pour lesquelles nous aimons tellement cette période de l'année. Mais n'oublions jamais que nous sommes disciples de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour honorer véritablement sa venue dans le monde, nous devons faire ce qu'il a fait et tendre la main avec compassion et miséricorde à toutes les personnes qui souffrent. Nous pouvons le faire chaque jour en parole et en action. Puisse cela devenir notre tradition de Noël, où que nous soyons, d'être un peu plus gentil, de pardonner davantage, de moins juger, d'être plus reconnaissant, plus généreux, en partageant notre abondance avec les personnes dans le besoin. Que la contemplation de la naissance de Jésus à Bethléem nous inspire à être comme lui davantage. Que la mission et l'exemple du Christ remplissent notre cœur d'amour divin pour Dieu et d'une profonde compassion pour nos semblables. Puissions-nous toujours répandre nos miettes avec une plus grande générosité et un amour incessant. C'est ma prière et ma bénédiction en cette période de Noël et toujours, au nom sacré de notre Sauveur, notre Rédempteur, au nom de Jésus-Christ. Amen.